De retour à l'émission pour un Québec apprenant ce mercredi 13 février. Alors, après avoir parlé de compétences essentielles et d'inclusion numérique en première partie, on va s'intéresser maintenant à l'appropriation de notre milieu de vie. Une façon de le faire, c'est par l'agriculture urbaine. Et à ce sujet, je reçois Laurence Fauteux, qui est collaboratrice au programme d'agriculture urbaine chez Alternative. Bonjour.
Bonjour.
Et une autre façon aussi de s'approprier son milieu de vie, c'est s'impliquer dans un milieu d'habitation coopératif. Et pour en parler, je reçois Mme Francine Némé, qui est directrice générale de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain, qu'on appellera aujourd'hui par son petit nom, la FECHIM. Bonjour, Mme Némé.
Bonjour.
Donc, on peut commencer peut-être par décrire chacune d'entre vous un peu les objectifs, les missions de vos organisations, peut-être avec Alternative, Mme Fauteux.
Bien, Alternative, c'est un organisme qui a, disons, plusieurs objectifs. Là, ça fait très longtemps qu'on est actif, je dirais plus d'une vingtaine d'années. Donc, spécifiquement, bien, on s'occupe de différents projets à l'international, en Palestine, dans le Moyen-Orient, donc au Maghreb, Machrek, donc différents projets. On s'implique aussi beaucoup dans les forums sociaux mondiaux. Et il y a 10 ans, en fait, on a développé un programme spécifiquement relié à l'agriculture urbaine. Donc, ça tombe bien que je sois invitée aujourd'hui parce qu'en fait, cette année, en 2013, on célèbre les 10 ans d'agriculture urbaine chez Alternative.
Les 10 ans cette année. Donc, oui. Un projet spécial et, comme je dis, une belle façon de s'approprier, se réapproprier son milieu de vie. On va en reparler dans quelques instants. Juste un petit mot peut-être sur la FECHIM, cette coopérative d'habitation. Madame Némé, oui?
Oui, la FECHIM, c'est un regroupement, en fait. C'est la Fédération des coopératives d'habitation du Grand Montréal, pour faire ça court. La FECHIM va avoir 30 ans cette année, en fait.
Bon, 2 anniversaires.
Oui. Et elle regroupe 450 coopératives dans le Grand Montréal, donc sur 600. Il existe 600 coopératives à Montréal, Laval et la grande région.
Ouais.
Son mandat est essentiellement de la représentation politique, la promotion de la formule coopérative, les services aux membres, des services de formation, des services de gestion, des services d'entretien immobilier, en gros, c'est ça.
Et vous avez des projets spéciaux aussi, dont on reparlera dans quelques instants, qui est une autre façon aussi de s'impliquer dans son monde, dans sa société. Et donc, si on parle un peu d'agriculture urbaine, vous célébrez donc, vous l'avez dit, Mme Fauteux, les 10 ans chez Alternative de l'agriculture urbaine à Montréal, on peut dire?
À Montréal, oui.
Pour être plus à Montréal.
Oui.
Donc, ça fonctionne depuis 10 ans. Vous avez fait plusieurs projets dans différents quartiers.
Oui. En fait, tous les projets, c'était vraiment... Le but, c'était d'amener de l'agriculture en ville, donc dans des communautés urbaines. C'est évidemment pas la même chose que de produire en communauté rurale, disons.
Non.
Donc, Alternative avait développé une technique en bac qui permettait de se réapproprier les édifices et vraiment le milieu urbain, là. Donc, comme on le connaît, plein de béton, peu de terre fertile. Donc, c'est ça. Avec le bac, c'était possible de cultiver maintenant sur des endroits bétonnés, donc les toits. C'était le premier lieu qu'on a investi. Mais finalement, on s'est rendu compte que ces bacs-là, on pouvait les amener vraiment à tous les endroits dans la ville. Et au fil des 10 ans aussi, on s'est rendu compte que avec les bacs, c'était important aussi de se réapproprier le territoire, donc la terre même. Donc, les parcs, puis peut-être c'est de trouver des moyens de cultiver en terre en ville. Donc,
trouver vraiment tous les petits espaces en ville où on pourrait faire de l'agriculture.
Exactement. Il y a vraiment une évolution à travers même notre vision de comment se réapproprier la communauté urbaine pour faire de l'agriculture.
Et ça a gagné quand même en popularité en 10 ans.
Ah oui, énormément.
Maintenant, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est assez bien implanté à Montréal.
C'est assez bien implanté,
même
surtout
si
au niveau des citoyens.
Ouais.
Les citoyens veulent faire de l'agriculture urbaine. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, là, qu'on a pu le voir pour la pétition qui avait été signée pour faire une consultation publique en agriculture,
ouais,
sur l'agriculture urbaine. La réponse des citoyens a été extraordinaire. Là, il s'agit de voir si les élus municipaux vont pouvoir relever le défi puis participer.
Mais sinon, au niveau de l'implication citoyenne, le désir est là et j'imagine que ça a créé aussi des liens qui n'étaient pas là avant ces projets-là dans les différents quartiers où vous avez établi des projets.
Ça, c'est clair. Je pense que chez Alternative, la vision de l'agriculture urbaine, c'est que le but, c'est pas nécessairement de produire c'est pas nécessairement de faire pousser des légumes, mais c'est de faire pousser des jardiniers. Donc, c'est vraiment le lien avec l'humain, faire pousser des jardiniers. Donc, on discute ensemble de ce qui se passe, de ce qu'on fait, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi notre vision, pourquoi on fait ce qu'on fait. Je pense que vraiment, chez Alternative, le côté humain, réseautage, le côté d'inclusion sociale est très important. Mais comme dans tous les projets d'agriculture urbaine, je crois que c'est vraiment un plus.
De travailler ensemble, et ça rejoint la vie aussi dans les coopératives, ce désir d'établir des liens entre les gens qui habitent dans le même milieu, dans le même édifice, qui, quand on n'est pas en coopérative, ça existe plus ou moins quand même, là, ces liens qui sont assez forts et développés à chaque jour dans les coopératives.
Oui, tout à fait. La vie en coopérative, c'est en soi un lieu d'apprentissage à la citoyenneté, à toutes sortes aussi d'autres compétences qu'on peut atteindre. Donc, c'est même à l'origine, quand on fait un projet de coopérative avec un groupe, on commence à apprendre à plus forte raison quand on y vit. C'est gérer, en fait, un projet ensemble. Donc, la gestion coopérative, la participation à un conseil d'administration, la mixité sociale aussi que ça impose, la possibilité pour les immigrants de se familiariser avec leur société d'accueil, de connaître d'autres gens, de savoir comment ça fonctionne, les lois, de se donner ensemble aussi une forme de sécurité, parce qu'on s'occupe chacun des enfants des autres. Moi-même, j'ai vécu en coopérative et on avait une cour commune et les enfants jouaient dehors et tous les parents étaient des parents pour tout le monde.
Oui. Donc, un grand esprit d'entraide dans la coopérative.
Oui, il y a de l'entraide. Bon, c'est pas toujours, le ciel n'est pas toujours bleu dans le sens où vivre ensemble, ça implique aussi des conflits, mais ça aussi, on apprend à les gérer, on apprend à faire de la médiation, on apprend à gérer un immeuble, à faire de l'entretien immobilier. Il y a des comités dans les coopératives. Donc, toute cette vie de collective est un apprentissage à la citoyenneté, je dirais.
Et développer les outils, on en parlait en début d'émission, des compétences essentielles qui sont, par exemple, de savoir travailler en équipe, de savoir dialoguer, justement, régler des conflits. Ça, on travaille ça à chaque jour, là, quand on est en coopérative.
Et même de gérer des gros budgets collectifs qu'on n'a jamais fait, ou d'entretenir, ou de prévoir pour un immeuble. En général, les gens qui sont en coop n'ont jamais été propriétaires, donc c'est tout ça qu'on apprend en coopérative. Et ça aussi, ça pousse à s'impliquer dans sa communauté. Et on a beaucoup d'exemples de ce type d'implication. C'est aussi, si on veut, un modèle qui favorise le développement durable. D'une part parce qu'on met en commun beaucoup de services. Il n'y a pas de spéculation dans les coopératives. Ben, elles sont construites un jour et puis les loyers n'augmentent qu'en fonction des besoins et non pas pour en retirer un profit. Oui. Et tout ce volet de participation citoyenne qui fait en sorte qu'on forme, on s'auto-forme, disons.
Et on va revenir dans quelques instants. Vous avez aussi des projets spéciaux qui sont proposés par les membres des coopératives. On va revenir dans quelques instants. On va parler d'alternatives, vos projets. Vous avez fait des projets, entre autres, il y en a un dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce que vous avez fait avec des retraités, si je ne m'abuse.
Exactement. Donc, ça rejoint un peu le projet de Mme Aimée, d'ailleurs, sur les coopératives d'habitation. Il y avait un projet de développement immobilier à NDG avec, c'est ça, des personnes, je connais pas tous les détails, mais je pense que c'est des personnes retraitées ou alors des personnes un peu plus âgées avec peut-être des mobilités réduites ou qui avaient des besoins spécifiques par rapport à leur milieu d'habitation. Donc, Alternative a participé au projet pour introduire l'agriculture urbaine pour répondre à quelques-uns de ces besoins-là. Donc, je pense qu'un des besoins, c'était, comme on disait, c'était un peu, tu sais, l'isolement social. Donc, on essaie de se mettre ensemble en communauté pour pas se retrouver seul, pour avoir un genre de réseau dans notre milieu de vie. L'agriculture urbaine, ça permettait de faire ça et aussi de participer un peu à sa propre sécurité alimentaire. Donc, ce projet-là, ça s'appelait Benny Farms. Puis je pense que c'était un des exemples dans lequel l'agriculture urbaine peut vraiment jouer un rôle au niveau d'amener les citoyens à s'approprier leur milieu de vie là, de manière active.
Et comme vous disiez tout à l'heure, Madame Fauteu, c'est pas seulement de faire pousser les légumes, là, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un objectif commun avec des gens qui forment les gens avec qui on vit là, à tous les jours. C'est surtout ça.
Oui, d'ailleurs, nous, on a des projets qui vont dans le même sens. C'est pas tout à fait de l'agriculture urbaine, mais c'est les ruelles vertes.
Oui.
Il y a beaucoup de coop qui s'impliquent dans ces projets-là. Ben, entre autres, dans Rosemont, l'été dernier, il y a une coopérative qui s'appelle l'Union du Paradis. Elles ont les coop.
C'est
ont
un
des
beau
nom.
On a le goût de vivre là.
Ouais, oui, tout vraiment. À fait. Qui a monté un projet qui s'appelait en 2012 Je fleuris ma ruelle. Et ça, c'était dans le cadre de l'année internationale des coopératives. Et ça, ce projet-là a suscité la collaboration entre la coop et tout le voisinage, et ça a créé en fait une entité, un groupe qui va continuer à travailler ensemble pour l'environnement du quartier là.
Oui.
Donc c'est le genre de projet. On a d'autres coop qui se sont impliquées avec Éco-Quartier, par exemple dans Hochelaga, Maisonneuve, pour faire du compostage. Donc on a déposé, c'est un projet pilote, et c'est les coop qui ont pris l'initiative de d'avoir des composteurs. Donc il y en a déjà 7 qui sont placés, il y en a d'autres qui pourraient être placés dans d'autres coopératives, et ça permet, bon, évidemment, de recycler, de faire du compost, d'éliminer des déchets, etc.
Donc, mais là, si vous avez déjà du compost, moi je vous suggère de planter des tomates au lieu des fleurs, là, vous êtes tellement proches.
Comme qu'on peut combiner les deux projets, de faire on le sait, donc vous l'avez dit, on peut être en coopérative et faire aussi de l'agriculture urbaine.
De manière coopérative même. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment beau de voir. Je pense qu'une fois qu'on commence à s'investir dans ce milieu de vie, c'est difficile de s'arrêter. On s'habitue à notre habitation, notre logement, après ça, notre alimentation, notre quartier, nos voisins. C'est comme un...
On ne va plus revenir en arrière là, dans un autre mode de vie. Là. Et si je vous demandais à vous deux, en terminant, les projets qui s'en viennent pour l'année, est-ce que vous travaillez sur des projets spécifiques?
Bien, chez Alternative, comme je disais, c'est les 10 ans. Donc oui, on va vraiment mettre l'accent sur les projets d'agriculture urbaine. Au courant du mois de mars, avril, mai, on va lancer une programmation avant le début de la saison de jardinage. Donc, il va y avoir une série d'ateliers. On va mettre en ligne plusieurs outils aussi pour aider les gens avec leur propre projet d'agriculture urbaine. Il va aussi avoir un volet sur nos projets d'agriculture urbaine à l'international au courant de l'été. Puis, on va aussi continuer le travail au niveau de la sensibilisation des élus municipaux pour essayer de faciliter le développement de l'agriculture urbaine à Montréal.
Donc, votre site Internet, c'est?
www.alternative.ca. Il y a aussi le site Jardinons sur les toits, Jardin sur les toits, donc .com, je crois. Donc, vous allez
trouver sur votre site alternative.ca, il doit avoir un lien vers l'agriculture, Jardin sur les toits. Et sinon, du côté de la Féchim, vous avez des projets spécifiques pour cette année?
Nous, on a beaucoup de projets, mais ils sont plus politiques pour cette année. C'est sûr, il y a ces projets se poursuivent. Il y en a d'autres qu'on a réalisés, dont j'ai pas eu le temps de parler, comme Coop Efficace, où on a pu faire des économies d'énergie à 750 coop au Québec qui se sont impliqués et qui économisent 600 kWh en tout. Là. Donc, il semble que c'est 6 millions de kilowattheures. Donc, il semble que ce soit énorme comme contribution. Nos projets, comme je vous dis, ils sont plus d'ordre politique. C'est vraiment de mettre l'accent particulièrement sur justement la promotion des coopératives d'habitation, faire valoir cette formule auprès des gouvernements, auprès de la population. Elle est trop méconnue.
Encore marginale quand même. Hein?
Oui.
On pourrait en avoir plus de coopératives. Seulement à Montréal, il pourrait en avoir plus, et à travers le Québec également. Donc, on souligne que c'est les 30 ans de la Féchim cette année et les 10 ans de l'agriculture urbaine alternative. Bon anniversaire. Oui, c'est ça. Bon anniversaire à vous deux. Merci beaucoup à Laurence Fauteu, collaboratrice au programme d'agriculture urbaine, donc chez Alternative, et Francine Némé, directrice générale de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain.
Bravo.
Oui. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
voilà déjà rendu au dernier segment de cette émission pour un Québec apprenant consacré aux outils qui sont nécessaires pour bien apprivoiser son milieu de vie et y prendre part activement. Et la vie n'est rien sans la science ou la science n'est rien sans la vie, c'est selon. Bref, la science est au cœur de nos vies et se questionner sans cesse, mais c'est le premier pas vers l'apprentissage. Mais dans ce domaine aussi, les défis sont grands et je vous propose d'explorer la science et les citoyens avec le rédacteur en chef du magazine Québec Science, Monsieur Raymond Lemieux. Se questionner constamment, c'est le cœur de la science.
Ben, en fait, il y a deux questionnements. Celui qui porte sur les pratiques mêmes de la science et il y a celui sur l'utilisation de la science. En fait, habituellement, quand on est dans des enjeux, quand on est dans des discussions publiques, les questionnements vont plutôt aller vers l'utilisation de la science. Par exemple, on a évidemment beaucoup entendu parler des controverses autour de l'exploitation de gaz de schiste.
Bien sûr.
Alors là, on est ici dans l'utilisation d'une technologie, d'une science. Donc oui, ça se questionne, mais pour bien se questionner là-dessus, il y a évidemment des notions de base et surtout, il faut savoir aller chercher l'information. Où elle est cette information-là? Elle est du côté des chercheurs, évidemment, des savants, dans les universités et évidemment, on peut comprendre tout de suite ici que s'il n'y a pas une science qui est faite librement, il ne peut pas y avoir un questionnement qui est libre non plus. Alors, une science libre garantit en quelque sorte des débats réels, des débats démocratiques, évidemment en autant que les citoyens et même ceux qui font la promotion de l'idée soient ouverts à réfléchir et à recevoir les questions, mais aussi controversées soient-elles.
Tout à fait, de recevoir, vous parliez d'aller chercher aussi l'information, mais pour aller la chercher, bon, faut d'abord connaître où aller la chercher. Il y a aussi la question de l'autre côté, inversement, de la diffusion de cette information.
Oui, mais quand on parle d'aller chercher l'information aujourd'hui, ce n'est plus un problème qu'on pouvait l'avoir il y a, je dirais, 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des réseaux sociaux maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'Internet. Le défi à cette étape-là, c'est beaucoup plus de pouvoir faire du discernement. Il y a une surabondance d'informations sur Internet. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ça, c'est un foutu problème.
Qu'est-ce qui est fiable aussi? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste peut-être des théories inventées?
Il y a beaucoup de pseudo-sciences sur l'Internet. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir discriminer. Quelles sont nos manières de discriminer? Moi, je vous dirais, il n'y a qu'un outil pour ça, c'est d'y aller avec d'intelligence et de ne pas tout gober. Alors, je pense que l'avenir est aux gens qui sont sceptiques pour qu'ils puissent bien consulter, bien finalement fréquenter les sources d'information. Ensuite, il faut aussi comprendre cette information-là. Il faut comprendre les intérêts qui sont derrière les informations véhiculées. Que ce soit des intérêts de gens qui font la promotion de projets, que des intérêts politiques de gens qui veulent finalement mousser une idéologie ou quelque chose comme ça. Alors, il faut faire la distinction aussi de tout ça. Et si on ne le fait pas, je pense que oui, ce manque de questionnement peut altérer une bonne décision. Je pense que il y a quand même tellement de décideurs qui sont au même niveau que les citoyens. Ils ont du mal à comprendre des événements et des éléments de science. Alors, pourquoi? Parce qu'on fait pas nécessairement l'acte d'aller chercher cette information-là. Mais cette information-là, comme je vous le disais, elle existe. Alors, ça peut être un beau défi pour futur débat, de pouvoir faire le discernement de la bonne information.
Mais justement, si on n'est pas capable, bon, de tout comprendre d'un coup, il y a quand même des étapes aussi à franchir pour certaines personnes qui jugeraient la science comme quelque chose de complètement incompréhensible et d'extérieur peut-être à leur vie quotidienne.
Oui, mais ça, là-dessus, vous voyez, je fais un pari. C'est que depuis les années 60, parce qu'avant, ça n'existait pas, depuis les années 60, il y a des cours de science à l'école secondaire. On peut se questionner parfois sur la qualité de ces cours-là, mais la question n'est pas là. C'est-à-dire qu'on peut, à peu près tout le monde aujourd'hui, qui a 50 ans et moins, a acquis une alphabétisation minimale de la science. Mais je dis bien minimale. Mais ça peut être suffisant. Ça peut nous, surtout nous aider à ne pas être intimidé devant le discours savant. Le discours savant est toujours très intimidant. Il est parfois ésotérique. C'est du jargon. On n'y comprend rien parfois. Mais on peut faire le pari aujourd'hui qu'on est capable de comprendre. Le problème, c'est qu'il faudrait que on puisse... en tant que citoyen, il faut que les gens s'adressent à notre intelligence. Moi, je fais le... Ça, c'est l'autre pari que je fais. C'est que les gens sont intelligents. Les gens sont capables de comprendre. Il faut simplement que les choses soient claires, bien dites et bien articulées. Et bon, la culture scientifique, elle est différente de ce qu'elle était dans les années 50. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on a l'alphabétisation nécessaire pour continuer à suivre le développement de la science.
Et le problème, c'est... côté de la communauté scientifique, justement, est-ce que le désir est là de vulgariser le travail et les
recherches?
Règle
générale, oui.
En ce moment, oui, vous
dites. Oui, règle générale.
Oui.
C'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui préfèrent être dans leur bulle, dans leur tour d'ivoire, tout ça. Bon, ça arrive. Et c'est très exigeant aussi le métier de chercheur, hein. Et d'autre part, ce sont pas tous les chercheurs qui ont l'habilité pour communiquer correctement les choses. Ils sont parfois dans leur bulle, mais ils sont aussi parfois dans leur discours savant. C'est très difficile de sortir de ce discours-là. Par contre, pour tous ceux qui savent le faire, ça vaut la peine de leur adresser la parole. Et la plupart du temps, les chercheurs, nous, c'est l'expérience qu'on a à Québec Science, les chercheurs sont généreux. Ils veulent parler, ils aiment parler de leur savoir. Alors moi, je pense que la coupure entre le monde savant et le grand public, elle est peut-être parfois trop imaginer. Je pense qu'il faut juste entretenir les ponts qui existent déjà ou en créer d'autres. Et les citoyens, tout comme les chercheurs, je pense que, règle générale toujours, on a envie de le faire. Parce que c'est intéressant l'échange. Les chercheurs apprennent en discutant avec les citoyens et réciproquement.
Tout à fait. Et c'est justement, on parlait la semaine dernière dans une émission ici à CIBL avec un chercheur, parce qu'il y a eu cette la petite controverse la semaine dernière avec les coupes budgétaires dans le monde de la recherche en la santé. Et ce que ce chercheur disait, c'est que lui, ses objets d'études, il disait « je ne les prends pas dans ma tête comme ça, ce sont des demandes qui viennent de citoyens, des gens qui me disent « j'aimerais comprendre mieux tel phénomène, bon, en santé, telle maladie ». Donc, même les recherches, même des chercheurs viennent des citoyens
enfin,
eux-mêmes.
Elles sont inspirées, effectivement.
Inspirées de la vie réelle. C'est pas de « je veux faire une recherche là-dessus ». Non, c'est des applications réelles.
Vous avez tout à fait raison. Et c'est la même chose au niveau de l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tout à coup, on s'est mis à faire des travaux sur le stockage de gaz carbonique, sur les changements climatiques, tout ça? C'est que le grand public, tout comme les chercheurs, qui sont aussi des citoyens, hein, se posaient du moins, on s'en pose moins. On sait qu'il y a un réchauffement climatique qui est en cours, mais il y a 20 ans, on s'est questionné là-dessus d'une manière d'abord intuitive et ensuite on a appliqué un petit peu plus de science pour découvrir qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que jamais on en a fait dans l'humanité depuis que la Terre existe, en fait, en si peu de temps. Donc, et on a compris que c'était l'espèce humaine qui était la cause principale de cette augmentation de gaz carbonique qui entraîne les changements climatiques d'aujourd'hui. Alors, mais ça, il y a 30 ans, on ne le savait pas. Et je pense que les chercheurs ont été étudiants, hein, à un moment donné. Alors, c'est quand on est étudiant, on est un peu plus ouvert, on veut réfléchir, on veut comprendre les nouvelles tendances, on veut être à jour, en quelque sorte. Et je pense qu'aujourd'hui, on est le fruit de cette sensibilité-là qui existait il y a 30 ans autour de l'environnement. Moi, je pense que dans 30, 40 ans, on aura le fruit de la sensibilité des jeunes chercheurs d'aujourd'hui parce qu'ils ont aussi d'autres soucis. Je ne peux pas témoigner en leur nom parce que je ne suis pas un chercheur, mais ils ont des soucis qui leur sont propres aussi. Et je trouve que c'est comme ça que la science avance. C'est avec ces chercheurs d'abord citoyens et qui deviennent des gens qui veulent se perfectionner ou mieux comprendre leur champ de savoir dans lequel ils vont être actifs.
Donc le désir d'aller plus loin et la sensibilité dont vous parliez aussi qui est présente encore plus aujourd'hui chez les scientifiques, les chercheurs, mais dans la population en général aussi, peut-être beaucoup plus qu'avant si on recule à 50, 100 ans en arrière, les gens se questionnaient un peu moins peut-être sur leur environnement, là.
Je pense que les gens ont de meilleurs outils intellectuels pour se questionner qu'avant. Je n'ai qu'à vous rappeler que en 1968, c'est une statistique que j'ai retrouvée récemment, en 1968, il y avait 500 personnes qui sortaient des universités francophones avec un baccalauréat. Alors, je vous dis pas le nombre de doctorants.
500 seulement. Wow.
Rappelez-vous aussi, en fait, si vous avez parlé à vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, ça arrivait fréquemment que les gens cessaient l'école après deux ou trois années de scolarité. On n'en est plus là. On en est dans une société où il faut apprendre les choses, et ça, je pense que c'est admis maintenant. Par contre, il y avait quand même une sorte de culture scientifique dans les années 30-40 qu'on n'a plus aujourd'hui. Je vous donne l'exemple tout simple, l'agriculture. Il ne faudrait pas me demander à moi de, ou peut-être à vous, je ne sais pas de quel milieu vous venez.
Non, pas du milieu de l'agriculture.
Mais savoir cultiver un champ agricole, ce n'est pas rien. Et c'est un savoir que je n'ai pas, moi. Et c'est un savoir que les gens avaient beaucoup plus dans les années 30-40. Évidemment, c'est un savoir un petit peu plus empirique, un petit peu plus qui était transmis de génération en génération.
Dire, ouais.
Aujourd'hui, on l'apprend à l'université ou au cégep dans des cours de technique agricole. Mais vous voyez que c'est une espèce d'institutionnalisation du savoir qui nous a permis quand même de généraliser ou de spécialiser un peu mieux ce savoir-là.
Mais il y a du positif là-dedans, mais aussi du négatif, parce que là, on disait justement qu'avant, on transmettait le savoir d'une génération à l'autre, et là, pas trop, il faut aller chercher ce savoir-là individuellement, soit dans les cours à l'université ou dans des documentations qu'on peut retrouver, entre autres, sur Internet. C'est un peu plus difficile là, de se dire qu'on est au courant de certaines sciences.
C'est une affirmation que je trouve intéressante. Je ne saurais pas la contester, mais intuitivement, je vous dirais que, comme je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, je pense qu'il y a plus d'informations qui nous est accessible. Alors, on peut aller chercher cette information-là. Est-ce qu'on peut discerner la bonne et la mauvaise information, comme je vous disais tout à l'heure? Probablement
c'est ça,
pas.
C'est le grand défi.
Ça. C'est le grand défi. L'autre grand défi pour moi, ça va être de bien savoir utiliser ces nouveaux savoirs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir pour bien agir. Il y a une dimension qui tient beaucoup plus de qu'est-ce qu'on fait avec notre savoir. Il y a plusieurs années, bon, avant même qu'on parlait, je vous ramène dans les années 40,
oui.
Il y avait beaucoup l'expression du genre les tchidjos connaissants, ceux qui savaient tout. Aujourd'hui, on pourrait encore s'amuser en se critiquant de tchidjos connaissants, mais vous obstinez avec quelqu'un, l'obstination ne peut pas durer très longtemps. Vous prenez votre iPhone, vous vérifiez en quelle année Champlain a fondé ou a été à Tadoussac, et vous allez trouver 1604.
Ouais.
Alors, vous n'avez même pas besoin de votre mémoire d'étudiante ou votre mémoire de citoyen. Cette mémoire-là est maintenant extérieure.
Ouais.
Et ça peut être très inquiétant parce que ça n'a pas... Il n'y a pas la même cognition que l'on avait avant. Moi, je pense que le futur du savoir devra être un futur multidisciplinaire où il va y avoir des échanges entre les différentes spécialités. Sauf que pour que ça puisse exister, ces échanges-là, il faut que de part et d'autre, on puisse bien maîtriser ces savoirs-là. Et si c'est une maîtrise que l'on a grâce à notre iPhone ou à notre mémoire artificielle dans notre ordinateur, ça peut être un peu limité,
Mais c'est que
pense.
Ça ne tient pas à grand-chose et que si là, on nous enlève cet outil-là, on n'a plus aucun savoir.
Ouais. Il suffit d'une panne d'électricité pour ça.
On s'en rend compte d'ailleurs, ici, quand il y a une panne, les gens sont plus rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne savent même plus comment cuisiner quand il n'y a plus aucun micro-ondes ou aucune cuisinière.
Ah, voilà, effectivement, c'est vrai.
Donc, c'est dans le fond, on pourrait retenir que le savoir évolue, il faut apprendre à faire le lien entre la science et son utilité dans notre vie quotidienne aussi.
Moi, je la vois partout, la science. Ça, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je vois partout.
L'air, l'eau, tout fait partie de notre vie, mais tout apprendre de ça, ça nous prendrait quelques vies.
Ah oui, et c'est pour ça qu'il faut se partager un peu le savoir. Ouais. Hein. Mais il faut le partager au sens, il faut se le partager au niveau de la production du savoir. Il faut se le partager aussi au niveau de la communication de ce savoir-là.
C'est ce qui est bien important, la clé de la science, partager.
Voilà.
C'était un entretien avec Raymond Lemieux, qui est le rédacteur en chef du magazine Québec Science. Alors, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je remercie tous les invités, Chantal Ouellette de l'UQAM, Alexandre Inkerly, Laurence Fauteux de chez Alternative et Francine Némé de la FECHIM. Et en terminant, Raymond Lemieux de Québec Science. Un merci tout spécial aussi à Isabelle Gagnon, chargée de projet à l'ICEA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, pour sa recherche. Et bien sûr aussi l'ICEA, fier partenaire de CIBL pour cette série d'émissions spéciales. Merci aussi à Antoine Berger, à la mise en onde aujourd'hui. C'était Anne-Marie Kirouac avec vous. Je vous retrouve le mercredi 13 mars pour une autre émission et on va s'intéresser cette fois-ci aux thématiques et en fait vous annoncer la semaine québécoise des adultes en formation qui se tiendra au mois d'avril, donc le 13 mars. D'ici là, vous pouvez écouter nos émissions sur www.cibl1015.com/ICA. Passez une très belle journée et à bientôt!